I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. C'est François et cela me fait très plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Cela fait désormais à peu près 5 mois depuis la création de Serial Entrepreneur. Au total, 5 épisodes, 5 parcours inspirants, 5 belles rencontres. Plus de 1400 écoutes et de nombreux retours positifs. Le podcast est un format fantastique et nous ne sommes qu'au début de son émergence en France. En septembre 2016, Erwan Jegouzo et son ami Simon Marcus décident de lancer leur plateforme de podcasting aux États-Unis, Pipa. Après plus d'un an et demi d'existence, 300 000 dollars levés et 3 mois d'accélération chez Techstars à Los Angeles, Pipa héberge désormais et diffuse de nombreux podcasts réputés tels que Nouvelle École, Binge, Louis Media ou encore le DJ mondialement connu Tiesto. Ma rencontre avec Erwan Jegouzo a eu lieu fin mars dernier sur Shaper, l'application de networking cofondée par Ludovic Huro, qui était passé d'ailleurs sur Serial Entrepreneur en janvier dernier. Un match, puis quelques messages échangés pour programmer notre premier rendez-vous, un déjeuner au bistrot L'Arrivée à Rennes, histoire de discuter sur nos parcours respectifs et parler podcast évidemment. C'est à ce moment-là que je lui propose d'enregistrer un podcast ensemble et de lancer Serial Entrepreneur sur Pipa en parallèle. Il accepte directement, et nous voilà le 23 avril dernier au village Baïssa Ille-et-Vilaine à enregistrer un échange. Dans ce podcast, on parle de son parcours, de ses expériences professionnelles, de Pipa évidemment, et puis du podcast, des podcasts en général. Bref, je vous souhaite à tous une excellente écoute. Salut Erwan.
Salut François.
Je suis très heureux de te recevoir au village Baïssa Ille-et-Vilaine pour ce nouveau podcast. Moi, je ne sais pas si tu le sais, mais je démarre chacun de mes podcasts avec le début de l'histoire, là où tout a commencé. Et donc moi j'aimerais savoir au tout début, donc quelles études as-tu fait et également ce que tu souhaitais faire au départ.
En fait très tôt je me suis rendu compte que l'outil informatique c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mm-hmm. C'était cette capacité de créer quelque chose avec mes mains, avec ce langage, et je trouvais ça très fascinant. Donc j'ai commencé par faire un IUT SRC à Saint-Lô, ça m'a beaucoup plu. Ensuite j'ai continué sur une licence parce que ça me plaisait, je voulais continuer mes études. Ça m'a aussi beaucoup plu, donc j'ai enchaîné sur un master à Angers, à l'ISTIA. Et donc là, c'était plus dans l'informatique, la programmation proprement parlée, mais c'était plus dans l'innovation, la veille stratégique, ce genre de choses. En gros, utiliser l'outil informatique pour arriver à ses moyens et puis innover de cette manière. Après, ma première expérience professionnelle, c'était en Allemagne. Je voulais travailler pour EuroRSCG. Mm-hmm. Donc, c'est une grosse agence de publicité française. Ça s'est fait racheter depuis. J'ai passé presque 4 ans à travailler en Allemagne. Alors, je suis arrivé, je ne parlais pas beaucoup allemand. j'ai beaucoup appris sur le tas. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir m'expatrier à New York. J'avais déjà essayé, parle bien la stage. Je n'avais pas réussi, je ne parlais pas bien anglais.
En quelle année, ça?
Alors ça devait être en 2007.
Ok.
Même avant, en fait. Et je me souviens d'entretien au téléphone. Je ne comprenais pas, en fait. Donc, au final, j'avais raccroché. Mon niveau d'anglais était très déplorable. Donc voilà, quelques années après, le destin revient retaper à la porte. Et donc là, j'ai pu partir à New York et puis vraiment découvrir la vie là-bas, en fait, qui était complètement... différente et puis hyper hyper effervescente. Ce qui était génial pour ma situation, c'est que vu que j'ai un parcours tech,
ouais,
et qu'il y a aussi une grosse scène dans le domaine des startups, ça m'a permis de vraiment pouvoir trouver des opportunités super intéressantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, je bossais pour une petite agence qui s'appelle Domani Studios, donc hyper créative. Là, c'était purement des campagnes marketing. À but voilà, d'éblouir la vue, tu vois, c'était un peu du grand
plus accès
du...
web ou juste marketing
du web, ouais.
Okay,
moi,
web
du
market.
Coup je crée les plateformes web pour le support marketing et après je me suis laissé un petit peu guider par mon instinct, donc ça c'est quelque chose que je voulais faire, je voulais découvrir parce que il faisait des choses hyper créatives et très belles au final, C'était un exploit informatique du point de vue créatif, en fait, au final. Après, je fais quelque chose de complètement opposé. j'étais travaillé chez Victoria's Secret.
Oui.
Donc, en général, les femmes connaissent mieux que les hommes.
Je connais aussi.
Ouais, très bien.
Ma copine connaît mieux que moi.
Elle connaît très bien, j'imagine aussi. Alors, je connais très bien maintenant aussi. Là,
Qu'est-ce que tu faisais là-bas ?
Voilà, je me suis laissé tenter par cette expérience où l'idée, c'était de venir et de reconstruire toute leur plateforme e-commerce.
Ok.
Donc là, c'est doux lourd, là.
Sacré challenge.
Ouais, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires par an, peut-être une centaine de développeurs, et puis il y a bien sûr toute l'entreprise qui tourne, et c'était surtout, on dit le porte-drapeau
en
français. Voilà, c'est tout, un peu tous les espoirs futurs de la boîte étaient orientés digital, et donc gros challenge. Donc là, j'étais lead developer sur... D'abord, on a refondu toute la plateforme mobile. Ça a très bien marché. Donc, on a après refondu la plateforme desktop. Mm-hmm. Pareil, gros carton. Et moi, après, je suis parti, hein, puisque le challenge avait été, pour la plupart...
relevé.
Relevé, bien établi, haut la main. Et après, je voulais un nouveau challenge. Donc, j'avais découvert un petit peu les agences créatives. J'avais découvert le gros Corporate America avec Victoria's Secret. Et je me suis dit, tiens... Il manque le côté start-up où je n'ai pas encore trop goûté à ce domaine. Donc là, je suis allé travailler en plus pour une late start-up qui s'appelle iHeartRadio.
Okay.
Donc eux, c'était déjà fait racheter. Ils étaient à peu près une centaine d'employés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, iHeartRadio, c'est un concurrent un peu à Spotify.
Okay.
Où l'idée, c'est la radio en ligne, tout simplement.
Ouais, ouais. Avec en mode web radio.
Ouais, donc déjà, format podcast. Voilà.
Premier.
C'était mon premier...
Premier pas dans ce
rapport
domaine.
Avec les podcasts. Ouais. Et, super expérience. Donc, pareil, challenge assez intéressant où ils voulaient complètement refondre leur identité visuelle. Mm-hmm. Donc, on a fait le site web, on était une équipe de deux. C'était très intense.
Oui, tu changes d'une équipe d'une centaine de développeurs.
On était deux, ouais. Mm. Autre, ouais. Le contexte était tellement différent et c'est ce que j'ai aussi beaucoup apprécié là-bas. C'est quand tu évolues dans une équipe avec une centaine de personnes, du coup, le risque à l'innovation est un peu plus limité. Par exemple, les technologies vont être aussi restreintes. C'est plus difficile de faire entendre sa voix quand tu as envie d'essayer.
Et puis, tu as beaucoup moins de liberté.
Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment à tous les niveaux. Et bon, je comprends très bien d'un point de vue business pourquoi est-ce que... On veut essayer de limiter ce genre de choses parce qu'il faut une cohérence, une cohésion. Mmh. On travaille tous ensemble vers un but commun. Donc, si on laisse à chacun un petit peu la liberté d'aller fouiller à droite à gauche, bah, au final, voilà, ça ne marche pas forcément. Donc, c'est exactement l'opposé que je cherchais après. C'était plus une petite start-up ou un produit tech, tu vois, où les ingénieurs qui partent ont leur mot à dire, où la solution... technologique, bien sûr, sert dans l'objectif des business, tu vois, mais aussi que la tech ait son mot à dire pour la pérennité de la plateforme sur du long terme. Ça, je trouvais ça important, puisque les décisions que tu prends au quotidien, au final, ont un impact sur le long terme, ou si aujourd'hui, je veux utiliser une technologie, par exemple, qui n'est pas assez mûre, ou si je fais des choix qui ne sont pas assez pertinents dans le long terme, ça apporte des risques ou des fragilités sur la plateforme. Et donc là, iHeart, c'était...
Tu restes combien de temps, du coup, dans cette start-up ?
Alors, iHeart, c'était 8 mois.
Ok. Donc,
assez court, au final, ouais. Très rapide. Bon, on a refondu le truc en 8 mois. Et puis, c'est un peu ce que j'essaie de véhiculer. C'est qu'il y a une effervescence telle à New York. Tu te fais chasser tous les jours, en fait. Donc, toujours, tiens, est-ce que tu veux... parler de cette opportunité, tiens, est-ce que tu es sur le marché, est-ce que ça t'intéresse, viens, on va boire un café. Au final, il y a forcément une opportunité qui va plaire. Et puis au final,
et après, tu fais quoi, du coup?
Alors après, intéressant, en fait, voilà, j'ai enchaîné 6 CDI en 7 ans quand même.
Ok.
donc, je suis très stable dans ma vie.
Sacré mercato.
Ah ouais, c'était très impressionnant. D'ailleurs, en y pensant, je me demande comment j'ai fait pour soutenir un rythme assez infernal comme celui-là. Mais c'est des choses naturelles, tu vois, quand tout le monde autour de toi enchaîne enchaîne les CDI et les opportunités, au final, ça te semble être la norme, tu vois.
Ouais, puis c'est la mentalité d'aujourd'hui. Avant, c'était plus rester dans une boîte 20, 30 ans.
Tout à fait.
Maintenant, c'est des gens qui saisissent des opportunités et qui veulent ne pas avoir de regrets à la fin de leur carrière.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et... Alors, tu vois, je suis très content d'être passé par ces étapes, puisque maintenant, en tant que cofondateur, ça me permet de vraiment comprendre un petit peu la mentalité qui peut passer par la tête des employés, ou si tu es mécontent, ou si tu ne sens pas que ce travail remplisse un petit peu une case éthique dans ta vie, ou qui te permette vraiment de t'éveiller, où il y a un disconnect entre, par exemple, les attentes de l'employé et ce que la start-up ou l'entreprise peut apporter. Voilà, il y a une cassure qui se crée, et puis tu sais très bien que tu ne pourras pas retenir l'employé. Donc là, bon, c'est une autre discussion, mais je prends ça très au sérieux. Et moi, ça me permet de pouvoir manager en fait d'une manière plus humaine, tu vois, plus efficace, au final, de créer ce rapport où toi, si t'es très bien dans ta vie, dans ton travail, quelque part, ça aide au bon fonctionnement de la société, puisque tu vas être plus productif, tu vas vouloir venir au boulot le matin, tu vas être force de proposition, et c'est clairement quelque chose qui nous permet d'être là aujourd'hui encore.
C'est essentiel.
Ouais, tout à fait. Et donc voilà, pour revenir à iHeart, après j'ai travaillé dans une petite startup du coup, super early stage. On était 10 dans une startup qui fait du machine learning, donc du deep learning.
Ouais.
Et donc je travaillais là-bas pendant un an et demi. C'est pas mal, c'est beaucoup quand même.
Le record.
Voilà, donc pleine levée de fonds, produit qu'on a créé, dès le début en fait, tu vois. Et, donc super, et puis j'ai rencontré Simon, donc le cofondateur de Pipa. Donc ça c'était après cette dernière startup où lui m'a présenté l'idée du podcast et m'a fait vraiment prendre conscience que bah, y a pas de technologie dans les podcasts. Et donc ayant travaillé chez iHeart, donc je connaissais déjà un petit peu le domaine, j'écoutais des podcasts, ça m'a permis de tout de suite comprendre son idée.
Et on était dans en quelle année?
Alors ça c'était en 2016.
OK.
Septembre 2016, ouais. Et donc tout de suite on l'a accroché humainement, déjà ça c'était important. Et puis je me suis lancé dans l'aventure enfin avec lui, et je lui ai dit, tu sais quoi, c'est une idée qui me plaît. Je pense pouvoir le faire, ou au moins pouvoir faire un prototype, et puis on verra ensemble si ça marche ou pas. Et puis c'est parti là. Donc, pas dans mon garage, puisqu'à New York, il n'y a pas de garage en général, mais dans mon appart, en mode soir et week-end.
Ouais.
Donc ça, c'est Pipa.
Et justement, Pipa, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux présenter
Tout à fait, je suis d'ailleurs très content que tu me poses la question. Alors, Pipa, c'est une plateforme de distribution et de monétisation des podcasts. Alors, les podcasts, tout le monde commence un petit peu à connaître, mais c'est au final assez récent en France. L'engouement s'est fait sentir il y a déjà quelques années aux États-Unis, donc... Il y a un petit décalage.
C'est un format qui existe quand même depuis très longtemps.
Ça existe depuis longtemps, mais ça n'a pas été consommé de manière normale.
C'était très utilisé par les radios pour mettre leur replay en podcast, en fait.
Ouais, surtout en France d'ailleurs.
Ah oui.
L'idée, c'est voilà, donc les radios ont déjà tout leur contenu audio. Il y a ce nouveau média qui est hyper compatible au final. Il suffit juste de mettre les fichiers qu'on a déjà dans un flux RSS.
Ouais.
Et donc, ça marche très bien pour les radios. Donc, il y a eu, en tout cas en France, un léger cannibalisme de la part des radios, mais aux États-Unis, c'est complètement différent. Ou bien sûr, donc le média existe depuis déjà longtemps, mais il y a eu quelques podcasts, donc je ne sais pas si tu connais, genre Serial ou Startup de Gimlet, qui, eux, ont réussi les premiers à atteindre des audiences monstres. Et là, du coup, tout le monde s'est rendu compte que le podcast est un média très intéressant, avec un potentiel qui avait été pas sous-estimé, mais tout le monde a pris conscience. Voilà, les gars, il y a vraiment un truc à faire. Et donc, nous, on s'est mis un petit peu sur ce créneau-là aussi. On a remarqué qu'il y avait un manque technologique qu'on pouvait combler très facilement. Et on s'est lancé là-dessus. Après... Donc voilà, Pipa, on a commencé à travailler dessus en, en septembre 2016, donc dans le garage avec Simon. Et on a eu la chance de pouvoir passer par l'accélérateur Techstars. Alors, oui. Pas à New York, mais à Los Angeles. Ce programme est spécialisé dans la musique, entertainment. Et là, j'ai vraiment pris toute la conscience de ce qui est vraiment tout ce que peut être un accélérateur. Où là, on s'est pris l'accélération le plein fait. Tu vois, on est arrivé avec un petit produit, en bêta privé avec.
Donc c'est toi qui a tout développé de A à Z.
Ouais, jusqu'à Techstars où on est arrivé à deux.
Okay.
Ça c'était en février 2017.
Mmh.
Et
combien de temps à Techstars?
Alors justement, c'est un programme de 3 mois. Donc eux injectent un petit peu de capital.
Mmh.
On a aussi fait une petite levée de fonds, un seed en fait via un autre accélérateur.
De combien?
Total, on a levé 300 000 dollars.
Mm-hmm.
Voilà, ça nous a permis d'embaucher 2 personnes pendant Techstars. En fait, c'était d'ailleurs assez intéressant et hallucinant. Il y a Tim, en fait, notre premier employé, Simon, donc mon partenaire, connaissait déjà puisqu'ils ont grandi ensemble en Afrique du Sud.
Okay.
On l'a fait, donc lui était déjà à New York. On l'a fait, tu sais quoi, on part à Los Angeles pendant 3 mois. On a envie de t'embaucher, vas-y, viens avec nous. Donc, il est venu avec nous. Et quelques semaines après, on a embauché Jake. Pareil, on a fait la même chose. On est à Los Angeles, là. On sent qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec toi. On est en pleine effervescence. On pense que ça peut être une opportunité à saisir pour toi également. Mmh. Vas-y, viens avec nous.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, on est arrivé à deux. Et puis, en 3 mois, pas en quelques semaines, on était 4. On a doublé quand même.
Mmh.
Et puis donc c'était 3 mois hyper intenses où vraiment tu vis au rythme de la communauté. Donc c'est des batchs de 10 startups, on était 11 du coup, pendant 3 mois, et t'es plongé dans une soupe d'investisseurs potentiels, de clients potentiels, de mentors, des personnes qui ont déjà eu des startups, donc qui peuvent t'aider, essayer d'approfondir ton projet, de le mûrir, d'apporter des conseils, ce genre de choses.
Une ébullition.
Au niveau de tout, finalement, ouais. C'est vraiment toi en fonction d'une certaine affinité, tu vois, avec ces personnes. Et puis, elles peuvent te permettre d'approfondir ou définir ton business model ou ta stratégie d'attaque du marché, ce genre de choses. Bon, après, il y a l'effet pervers où, du coup, s'il y a 100 personnes qui viennent te parler, tu peux être à peu près sûr qu'il y a 100 avis différents.
Mmh.
Voilà. Donc, c'est très intense de ce côté-là, mais nous, ça nous a permis de décupler en 3 mois, en fait, où on a fait x10 un peu le nombre de téléchargements, de podcasts, de clients. Et puis on est sorti hyper avec une plateforme déjà beaucoup plus robuste.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tu vois, en 3 mois. Donc après, on revient à New York et puis voilà. En fait, Techstars marque vraiment le
début. Juste pour revenir à Techstars, vous avez eu des mentors du coup du mentoring.
Ouais.
Est-ce que tu as des entrepreneurs qui t'ont plus marqué que d'autres?
Alors, en fait, c'est ça, un des bienfaits d'avoir un cofondateur, c'est que Simon, donc le PDG, lui, s'est chargé plus particulièrement d'être au contact avec ses partenaires externes pour que moi et du coup les deux autres personnes puissent se concentrer sur la création du produit.
Mmh.
Parce que c'est très facile de se laisser... tenter par parler toute la journée sur ton beau projet qui oui j'y crois ça a de l'avenir, mais au final tu fais rien. Donc nous on a choisi très tôt d'un peu
et puis c'est bien d'avoir cette complémentarité entre
tout deux. À fait, et je pense que c'est une super bonne chose d'avoir donc une bonne complémentarité mais aussi une bonne entente avec ton partenaire en fait au final, où très naturellement tu vois Simon c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec les gens, qui a du bagou, qui est aussi intelligent. Donc, bon, je dis pas que j'en ai pas, mais lui, on l'a marqué beaucoup plus. Et puis moi, j'avais cette facilité à créer le produit, tu vois, à essayer de focaliser toutes ces idées sur quelque chose qui soit concrétisable. Mmh. Et puis du coup, j'avais les moyens de le faire. Donc ça marche très bien encore aujourd'hui. C'est vraiment superbe. Ouais. D'ailleurs, c'est un des critères de sélection pour Techstars. Hein, c'est si t'as pas de cofondateur, t'as pas ta place là-bas.
Ah gros, oui, carrément. Parce que les startups, où il y a
ils ont fait des études. Peut-être que ça a changé, je sais pas. Mais un des gros critères de succès des startups, c'est d'avoir un cofondateur ou non.
Ah oui, c'est marrant ça.
Bon, après, ça, c'est vraiment si on parle des startups. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas de cofondateur, tu ne pourras jamais avoir ton propre business. Mais dans une optique, voilà, levée de fonds, dans une optique de croissance accélérée, tu vois, c'est a priori un des éléments favorables. Ouais.
Ok. Ouais. Et donc, là, tu me disais aussi, donc vous revenez à New York après cette belle aventure.
Mm-hmm.
Et donc, vous aviez des locaux à New York
Alors, on est resté un petit peu dans les locaux de Techstars à New York, puisque du coup, ce qui est intéressant, c'est de faire réseau, en fait, presque mondial, mais surtout aux États-Unis, où on est allé dans les bureaux à New York pendant quelques mois. Et puis là, on est dans un coworking, toujours à New York. Mais, du coup, pour moi, donc je ne suis plus à New York. Donc, j'ai fait Los Angeles, New York, et puis je suis revenu à Laval, donc ma ville d'origine.
Mm-hmm.
Bon, pour des raisons personnelles, tout simplement. J'ai deux enfants et puis c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi. Donc, on a décidé de revenir aux sources, en tout cas pour l'instant. Mais justement, ça, c'était un petit peu la deuxième parenthèse pour moi et aussi pour Pipa, où en revenant en France, donc ça, c'était en septembre 2017, je me suis rendu compte qu'il y avait juste un marché énorme et totalement inexploité pour les podcasts.
Et puis une émergence du podcast en France, qui
tout
est
à fait
du podcast indépendant, parce que
t'es très bien placé pour le savoir d'ailleurs.
Clairement. mais voilà, on peut parler de Nouvelle École, de plusieurs podcasts.
Ouais. Alors notre premier client en France, gros client, c'était le réseau Qualité. Je suis très content qu'ils nous ont fait confiance. On les a pas laissés tomber. Et puis avec l'effet communautaire, avec l'effet bouche à oreille. Très vite, on a pu acquérir d'autres podcasts indépendants, d'autres réseaux. Maintenant, on travaille avec Nouvelle École là, depuis pas très longtemps. Donc, je suis quand même assez fier. Tu vois, c'est un podcast que j'écoute personnellement.
Moi aussi.
Ouais, voilà. On est d'accord. Et puis, le fait de l'avoir chez nous, tu vois, pour moi, c'est un peu un gage de qualité ou de succès, mais pas seulement, tu vois, j'ai juste l'impression de créer un produit qui répond juste très bien aux podcasteurs. J'étais très honnête dans ma démarche, dans la création de ce produit, où c'est pas quelque chose qu'on choisit de faire pour nous, tu vois. C'est un peu dans l'idée Lean Startup,
oui,
où on se laisse guider par tes besoins. Toi-même, tu pourrais me dire, tiens, moi, j'ai envie de voir ça sur Pipa, voilà, j'ai envie de construire ça. Il y a très forte chance qu'on soit amené à le faire, je veux dire, tu vois, on essaie de créer.
C'est une plateforme qui est modelable et qui
tout à fait.
Alors, qui va clairement évoluer.
On est encore assez jeune pour avoir beaucoup de flexibilité et on ne s'est pas encore ancré dans quelque chose qui soit définitif. Mais je pense pas que ça se fera, tu vois. On crée pas le produit pour nous et pour les podcasteurs. Et le seul moyen pour moi d'avoir un réel succès, c'est d'être présent dans la communauté et de les écouter et créer un peu une plateforme à leur image. Donc on a beaucoup de chantiers en ce moment.
Mais du coup, finalement, ton retour en France pour des raisons personnelles, c'est entre guillemets top pour Pipa, dans le sens où
tout à fait.
L'objectif, c'est clairement de viser le marché français.
Ouais, donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Nouvelle École, c'était déjà quelque chose, mais il y a d'autres gros acteurs. Donc Binge Audio, on commence à travailler avec eux aussi. Ça, c'est génial. Donc autant Autonin, tu vois, c'est un podcasteur indépendant qui n'a pas forcément une vue sur la monétisation. C'est très bien, hein, chacun son enjeu, chacun son truc. Binge, c'est différent, ils sont dans le podcast pour en vivre, pour faire du contenu de qualité. Et voilà, contenu de qualité, ça a un coût, et ce coût, faut juste pouvoir en vivre. Et donc nous, je pense qu'on peut leur apporter une solution aussi de ce côté-là. Donc on y travaille.
Et l'objectif aussi pour Pipa, c'est de trouver des annonceurs.
Ouais, alors ça, c'est un peu la deuxième étape où, Donc là, on a ce produit donc qui fait la distribution. On peut distribuer vraiment, même toi, ton podcast un peu partout.
Notamment sur Spotify.
Voilà, on était d'ailleurs les premiers à le faire en France. Ça, c'est cool. Ça nous a donné beaucoup d'engouement, tu vois. Ça fait beaucoup de bruit sur Twitter.
Clairement,
et je te le cache pas, on a eu beaucoup d'utilisateurs grâce à ça. Donc ça, c'est bien. Et donc ça, c'est l'aspect distribution. On essaie, toi, par exemple, ton podcast, de pouvoir le mettre partout. Ça, c'est un enjeu qui n'est pas totalement atteint, mais on va le faire d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc après, il y a toute la partie monétisation. Donc là, on a développé une technologie assez puissante au final qui peut te permettre de monétiser tout ton back catalogue. Donc traditionnellement, si toi, par exemple, tu voulais mettre une annonce sur ton podcast, il faudrait, le jour en fait où tu veux le publier, il faut déjà que tu l'aies vendu. Et tu le vends une fois, voilà. Mais ton podcast, lui, potentiellement, il peut vivre des années, tu vois. Et donc, il y a un gros
manque à
gagner. Oui,
puis c'est de l'affichage dynamique comme sur YouTube, comme…
Ouais, tout à fait. Ou l'analogie du blog, par exemple, c'est comme si tu écrivais un blog, tu mets une annonce et tu le vends une fois. Et puis après, tous les lecteurs qui viennent lire ton article, tu ne gagneras plus jamais de l'argent dessus. Donc ça, c'est un modèle qui paraît dérisoire sur un système de blog, même sur Spotify, ce genre de choses pour la musique, mais le podcast fonctionne encore de cette manière. Donc là, on apporte une solution. Après, voilà, on a la solution technique qui marche, mais il faut ensuite pouvoir boucler tout ce cycle, en fait. Il faut donc non seulement une solution technologique, mais il faut que ça corresponde aux attentes des podcasteurs. Et puis, il faut aussi pouvoir trouver les annonceurs pour qu'on puisse boucler la boucle au final. Donc on y vient, ça c'est le chantier en cours,
voilà. Okay.
Mais qui va s'étendre un peu plus puisqu'au final il y a pas vraiment de fin, tu vois. Autant une solution technologique, elle est créée, tu peux la faire évoluer, mais dans cette démarche commerciale c'est plus quelque chose en continu.
Et pour revenir sur Spotify, donc vous étiez la première plateforme à distribuer les podcasts sur Spotify
en France.
Comment ça s'est passé justement le contact avec Spotify et
dans les détails, je peux.
C'est confidentiel.
c'est pas forcément confidentiel, mais disons que on a des relations avec eux.
Voilà.
C'est leur siège. Enfin, ils ont pas le siège social, mais ils ont une grosse implantation à New York. En fait, à deux rues de nos bureaux. Moi, je connais quelques gars qui bossent là-bas. Au final, il y a une connexion presque naturelle qui s'est faite. Et puis, eux se lancent aussi beaucoup dans les podcasts. Et puis, on a trouvé une entente de ce côté-là où on leur apporte du contenu de qualité, en fait.
Totalement,
c'est gagnant-gagnant.
C'est top. Et aujourd'hui, c'est quoi les plus gros podcasteurs que vous avez, aussi bien américains que français?
Ouais. Alors, notre plus gros client, c'est Tiesto. Je ne sais pas si tu connais.
Le DJ.
Ouais, je ne connaissais pas avant. Maintenant, je connais. Alors, j'écoute de temps en temps. En fait, c'est marrant l'anecdote puisqu'on l'a eu grâce à Techstars.
Vous l'avez rencontré, du coup?
Ouais. Alors, il me semble... Non, pardon. Simon ne l'a pas rencontré, mais il a rencontré le groupe de management de Tiesto.
Okay.
Il n'est pas tout seul.
Oui, j'imagine.
il a une agence derrière lui, donc on a rencontré les personnes. En tout cas, Simon a rencontré les personnes. Et puis, mais c'est un podcast... Enfin, c'est très marrant puisque son podcast a littéralement explosé. Bon, je ne vais pas donner de chiffre exact, mais quand on l'a eu dans les premiers jours, il n'a pas fait péter pipa. Notre plateforme est presque, tu vois. Il avait déjà un trafic monstrueux. Donc, c'était la première vague de scale, tu vois, à laquelle on a dû faire face, et ça c'était génial puisque moi ça m'a permis de refondre un petit peu notre data pipeline vers un système qui était plus viable à une grande échelle, tu vois. C'est toujours en mode startup, on a commencé juste avec une petite base de données, tout simplement, voilà, faut commencer quelque part. On voulait pas trop mettre des moyens dans une technologie sans vraiment savoir comment ça allait être utilisé.
C'est clair.
Donc voilà, on a mis
de toute façon,
au fur et à mesure.
Vous réajustez en fonction des clients.
Tout à fait. Tout à fait. Donc le jour où on l'a eu, on a dû faire une fonte de CD de la pipeline. Ça nous a mis plusieurs semaines, mais là c'est hyper robuste. On a d'ailleurs fait un article à ce sujet.
Sur le site de Pipa, sur votre blog?
Ouais, sur la refonte de CD de la pipeline.
Ok.
C'est très intéressant. Mais du coup, l'anecdote, c'est qu'entre-temps, lui a multiplié presque par 10 son audience.
C'est plusieurs millions d'écoutes par
mois.
Ouais,
on parle de plusieurs millions, là, très clairement. Donc, ce qui est génial, c'est qu'avec la même architecture, on a pu quand même faire face à un x10 de trafic juste de son côté, tout en multipliant le trafic des autres podcasteurs d'autre part. Donc, c'est quelque chose qui est très périn et Tiesto.
Ah ouais, c'est la classe.
Quand même. Après, là, en France, donc voilà, Nouvelle École, c'est... Donc, c'est un des plus gros podcasts en France. Et puis, avec Binge aussi, eux ont beaucoup de contenu, qui a beaucoup d'audience. Donc, on voit aussi beaucoup de trafic.
Il y a Louis Média, non aussi ?
Alors, Louis Média, oui, on travaille avec eux depuis déjà quelques mois. Mmh. Alors, ils commencent, tu vois, c'est autre chose. Ils font du très bon contenu.
Ouais.
Ils n'ont pas encore les audiences de Nouvelle École. Mmh. Ça ne fait pas aussi longtemps qu'ils sont lancés. C'est peut-être plus des podcasts de niche, mais c'est
un format totalement différent, mais c'est hyper quali.
Pas facile de comparer.
C'est clair.
Ouais. J'aime beaucoup ce qu'ils font en tout cas. Je suis très content de pouvoir les accompagner d'ailleurs.
Ouais. C'est clair que c'est hyper, hyper cool. Une autre question, j'aurais pu la poser au tout début, mais Pipa, pourquoi ce nom ?
Ça vient de quoi ? beaucoup commencent à me poser cette question. Au final, la réponse. C'est une réponse assez simple et puis belle au final, où c'est un nom qui est très agréable à entendre. Ça n'a pas une signification particulière. C'est un nom court, mémorable, qui était aussi disponible, hein, tout simplement.
Ok, et puis, c'est bon.
Et puis on s'est lancé là-dessus. On s'est dit que ça pouvait porter une belle image, une image du produit.
Ok. Pas de signification concrète.
Pas de signification concrète, ouais.
Ok. Pour revenir au podcast, est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts et c'est quoi les podcasts que tu écoutes fréquemment?
Alors, j'en écoute moins en ce moment. Bizarrement, je sais pas. J'essaie d'écouter pas tous ceux qui viennent sur notre plateforme, mais presque. Mm-hmm. Au moins, de pouvoir connaître ceux qui s'intéressent à Pipa et ceux qui nous font confiance pour pouvoir créer peut-être un lien. Souvent, on me demande aussi...
Est-ce que vous allez créer votre podcast chez Pipa ?
Alors, on en parle. On a beaucoup de chantiers. Celui-là, c'est clairement pas une priorité.
Ouais, j'imagine.
Mais on aura sûrement beaucoup de choses à dire.
Les objectifs pour
Pipa ?
Ouais,
alors, il y a quelque part, en fait, on n'est pas podcasteur nous-mêmes. On n'a pas un devoir, mais un objectif d'accompagnement des podcasteurs. Je pense que tu peux imaginer, on nous demande assez régulièrement... on nous demande beaucoup de conseils. Soit au niveau du matos qu'il faut acheter, des logiciels. On leur conseille toujours Pipa, hein, mais pour les choses qu'on fait pas.
Très étonnant.
Ouais, il faut des outils comme tu le sais. Mais il y a aussi, par exemple, dans les formats, dans les canaux de distribution, dans comment faire grossir son audience. Il y a beaucoup de conseils qu'on peut apporter. Et donc j'essaie d'être là. Pour les podcasteurs, tu vois. Au lieu d'avoir mon podcast, j'essaie d'être utile aux podcasteurs pour essayer de les aider dans leur démarche. Après, les projets varient. Hein,
c'est pas un accélérateur de start-up, c'est un accélérateur de podcast.
Tout à fait. Au final, c'est gagnant-gagnant puisque leur succès fait un peu le nôtre. Puisque si leurs audiences sont assez considérables, nous, ça nous permettra aussi de les monétiser, tu vois. Et puis sur ce modèle économique, on prend une commission. Donc, voilà. On s'y retrouve tous au final.
Okay.
Après, ouais, il y a quelques podcasts que j'écoute, donc moins, mais. Alors, mon premier amour, j'ai envie de dire, mon deuxième en fait, c'est Planet Money de NPR. Donc, ça, c'est aux États-Unis. C'est un format que j'aime beaucoup. C'est un format court sur des sujets très contemporains. Alors, c'est souvent lié à l'économie ou à la société ou anecdotique en fait, mais toujours en rapport avec la société pour créer des conversations. Où j'aime beaucoup pendant ces 15 ou 20 minutes que j'écoute, quand je sors, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose qui peut me servir, et puis je me sens bien, tout simplement. Donc ça je vous conseille. J'écoute beaucoup de podcasts américains au final. Là, par contre, mon premier amour,
dis-moi,
on parle d'amour dans les podcasts, hein, c'était Dan Carling, donc c'est un podcast qui s'appelle Hardcore History. Donc lui, format hyper long, du coup, c'est des épisodes entre 4 et 6 heures sur des thématiques,
c'est voilà, dingue,
histoire du monde ou histoire des conflits. Ouais, ouais, c'est un travail d'investigation considérable. C'est voilà, c'est un travail à plein temps pour lui. Il fait des épisodes qui prennent aux tripes.
Tu vois, ouais, j'imagine.
C'est très 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 intense.
Il a écouté en plusieurs fois du coup.
Là. Ah ouais ouais. Bon, à moins que tu fasses un Paris Marseille quotidien là.
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, tu l'écoutes sur en plusieurs fois et puis c'est un petit peu un cours d'histoire fait par un passionné, un passionné d'histoire. Et j'ai trouvé que la manière dont il raconte et la qualité du contenu était inégalée, tout simplement.
Ok.
Ouais.
C'est cool. Bon bah écoute, Erwan, je te remercie pour cet échange.
Ouais, merci à toi.
Et puis on se retrouve très prochainement sur Pipa, du coup.
Super.
Ciao.
Allez, salut.
Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur SoundCloud, sur Apple Podcast et également à l'emailing sur serial-entrepreneur.fr. N'hésitez pas aussi à m'envoyer votre feedback par message privé, c'est très important, sur les réseaux sociaux ou par mail directement, françois@serial-entrepreneur.fr. On se retrouve très prochainement pour un podcast et moi je vous dis à très vite.